Le monde de Maupassant, une série de contes et nouvelles de Guy de Maupassant, adaptée pour la radio par le Théâtre de l'Oreille. Après la bête à maître Belhomme et ce cochon de Morin, voici aujourd'hui Rose, adaptée et mise en onde par Marco Pelli.
Les deux jeunes femmes sont ensevelies sous une couche de fleurs, seules dans l'immense landau chargé de bouquets comme une corbeille géante. Sur la banquette avant, deux bannettes de satin blanc pleines de violettes, et sur la peau d'ours qui couvre les genoux, un amoncellement de roses, de mimosas, de giroflées, de fleurs d'oranger, nouées avec des faveurs de soie, ne laissant sortir de ce lit éclatant et parfumé que les épaules, les bras et un peu des corsages dont l'un est bleu et l'autre lilas. Le landau parcourt au grand trot la route d'Antibes, précédé, suivi, accompagné par une foule d'autres voitures pleines de femmes noyées sous un flot de violettes. Car c'est la fête des fleurs à Cannes. On arrive au boulevard de la Foncière, se jette des fleurs. La foule compacte, rangée sur les trottoirs, est maintenue par les gendarmes à cheval qui repoussent brutalement les curieux pour ne point permettre aux vilains de se mêler aux riches, regardent, bruyantes et tranquilles. Des voitures en s'interpellent, se reconnaissent, se mitraillent avec des roses. Un char plein de jolies femmes, vêtues de rouge comme des diablesses, attire et séduit les yeux. Un monsieur lance avec une ardeur joyeuse un énorme bouquet retenu par un élastique. Sous la menace du choc, les femmes se cachent les yeux et les hommes baissent la tête. Mais le projectile gracieux, rapide et docile, décrit une courbe et revient à son maître qui le jette aussitôt vers une figure nouvelle. Les deux jeunes femmes vident à pleine main leur arsenal de fleurs et reçoivent une grêle de bouquets. Puis, après une heure de bataille un peu lasse, enfin, elles ordonnent au cocher de suivre la route du golfe Juan qui longe la mer. Le soleil disparaît derrière l'Estérel, dessinant en noir sur un couchant de feu la silhouette dentelée de la belle montagne. La mer calme s'étend bleue et claire jusqu'à l'horizon où elle se mêle au ciel. Les jeunes femmes, étendues sous la lourde fourrure, regardent languissamment.
Ah, comme il y a des soirs délicieux où tout semble bon, n'est-ce pas, Margot?
Oui, c'est bon. Mais il manque toujours quelque chose.
Quoi donc? Moi, je me sens heureuse tout à fait. Je n'ai besoin de rien.
Si, mais tu n'y penses pas. Quel que soit le bien-être qui engourdit notre corps, nous désirons toujours quelque chose de plus. Pour le cœur.
Un peu d'amour?
Oui.
Les deux femmes regardent, silencieuses devant elles. Enfin, celle qui s'appelle Marguerite rompt le silence dans un murmure chargé de sensualité nostalgique.
La vie ne me semble pas supportable sans cela. J'ai besoin d'être aimée, ne fût-ce que par un chien. Nous sommes toutes ainsi d'ailleurs, quoi que tu en dises, Simone.
Mais non, ma chère. J'aime mieux n'être pas aimée du tout que de l'être par n'importe qui. Crois-tu que cela me serait agréable, par exemple, d'être aimée par...
Elle cherchait par qui. Elle pourrait bien être aimée, parcourant de l'œil le vaste paysage. Ses yeux, après avoir fait le tour de l'horizon, tombèrent sur les deux boutons de métal qui luisaient dans le dos du cocher.
Par mon cocher?
Je t'assure que c'est très amusant d'être aimé par un domestique. Cela m'est arrivé deux ou trois fois. Il roule des yeux si drôles que c'est à mourir de rire. Naturellement, on se montre d'autant plus sévère qu'ils sont plus amoureux. Puis on les met à la porte, un jour sous le premier prétexte venu, parce qu'on deviendrait ridicule si quelqu'un s'en apercevait.
Non, décidément, le cœur de mon valet de pied ne me paraîtrait pas suffisant. Raconte-moi donc comment tu t'apercevais qu'il t'aimait.
Je m'en apercevais, comme avec les autres hommes, lorsqu'ils devenaient stupides.
Les autres ne me paraissent pas si bêtes à moi quand ils m'aiment.
Idiot, ma chère. Incapable de causer, de répondre, de comprendre quoi que ce soit.
Mais toi, qu'est-ce que cela te faisait d'être aimée par un domestique? Tu étais quoi? Émue? Flattée?
Émue... Non. Flattée? Oui, un peu. On est toujours flatté de l'amour d'un homme, quel qu'il soit.
Oh, voyons, Margot.
Si, ma chère. Tiens, je vais te dire une singulière aventure qui m'est arrivée. Tu verras comme c'est curieux et confus ce qui se passe en nous dans ces cas-là. Il y aura 4 ans à l'automne, je me trouvais sans femme de chambre. J'en avais essayé l'une après l'autre, 5 ou 6 qui étaient ineptes, et je désespérais presque d'en trouver une, quand je lus, dans les petites annonces d'un journal, qu'une jeune fille sachant coudre, broder, coiffer, cherchait une place et qu'elle fournirait les meilleurs renseignements. Elle parlait en outre l'anglais. J'écrivis à l'adresse indiquée et le lendemain, la personne en question se présenta. Elle était assez grande, mince, un peu pâle, avec l'air très timide. Elle avait de beaux yeux noirs, un teint charmant. Elle me plut tout de suite. Je lui demandai ses certificats. Elle m'en donna un en anglais, car elle sortait, disait-elle, de la maison de Lady Rimwell, où elle était restée 10 ans. Le certificat attestait que la jeune fille était partie de son plein gré pour rentrer en France et qu'on avait eu à lui reprocher pendant son long service qu'un peu de coquetterie française. La tournure pudibonde de la phrase anglaise me fit même un peu sourire et j'arrêtai sur le champ cette femme de chambre. Elle entra chez moi le jour même. Elle se nommait Rose. Au bout d'un mois, je l'adorais. C'était une trouvaille, une perle, un phénomène. Elle savait coiffer avec un goût infini. Elle chiffonnait les dentelles d'un chapeau mieux que les meilleurs modistes. Et elle savait même faire les robes. J'étais stupéfaite de ses facultés. Jamais je ne m'étais trouvée servie ainsi. Elle m'habillait rapidement avec une légèreté de main étonnante. Jamais je ne sentais ses doigts sur ma peau et rien ne m'est désagréable comme le contact d'une main de bonne. Je pris bientôt des habitudes de paresse excessives, tant il m'était agréable de me laisser vêtir des pieds à la tête et de la chemise aux gants par cette grande fille timide, toujours un peu rougissante et qui ne parlait jamais. Au sortir du bain, elle me frictionnait et me massait pendant que je sommeillais un peu sur mon divan. Je la considérais, ma foi, en amie de condition inférieure, plutôt qu'en simple domestique. Or, un matin, mon concierge demanda avec mystère à me parler. Je fus surprise et je le fis entrer. C'était un homme très sûr, un vieux soldat, ancienne ordonnance de mon mari. Il paraissait gêné de ce qu'il avait à dire. Enfin, il prononça en bredouillant
« Madame, il y a en bas le commissaire de police du quartier. »«
Qu'est-ce qu'il veut ?»«
Il veut faire une perquisition dans l'hôtel. »«
Certes, la police est utile, mais je la déteste. Je trouve que ce n'est pas là un métier noble. » Et je répondis, irrité autant que blessé, « Pourquoi cette perquisition ? À quel propos ? Il n'entrera pas. »
Il prétend qu'il y a un malfaiteur caché.
Cette fois, j'eus peur et j'ordonnai d'introduire le commissaire de police auprès de moi pour avoir des explications. C'était un homme assez bien élevé, décoré de la Légion d'honneur. Il s'excusa, puis m'affirma que j'avais parmi les gens de service un forçat. Je fus révoltée. Je répondis que je garantissais toute la domesticité de l'hôtel et je la passais en revue. Le concierge. Pierre Courtin, ancien soldat.
Ce n'est pas lui.
le cocher François Pingot, un paysan champenois, fils du fermier de mon père.
Ce n'est pas lui.
Un valet d'écurie pris en Champagne également et toujours fils de paysan que je connais? Plus un valet de pied que vous venez de voir?
Ce n'est pas lui.
Alors, monsieur, vous voyez bien que vous vous trompez.
Pardon, madame. Je suis sûr de ne pas me tromper. Comme il s'agit d'un criminel redoutable, voulez-vous avoir la gracieuseté de faire comparaître ici, devant vous et moi, tout votre monde?
Je résistais d'abord. Puis je cédais. Je fis monter tous mes gens, hommes et femmes. Le commissaire de police les examina d'un seul coup d'œil, puis déclara fermement
« Ce n'est pas tout !»«
Pardon, monsieur, il n'y a plus que ma femme de chambre, une jeune fille que vous ne pouvez confondre avec un forçat. »«
Puis-je la voir aussi ?»«
Certainement. » Je sonnai Rose, qui parut aussitôt. À peine fut-elle entrée que le commissaire fit un signe et deux hommes que je n'avais pas vus, cachés derrière la porte, se jetèrent sur elle. Lui saisirent les mains et les lièrent avec des cordes. Je poussai un cri de fureur et je voulus m'élancer pour la défendre. Le commissaire m'arrêta.
Cette fille, madame, est un homme qui s'appelle Jean-Nicolas Le Capet, condamné à mort en 1879 pour assassinat précédé de viol. Sa peine fut commuée en prison perpétuelle. Il s'échappa voici 4 mois. Nous le cherchons depuis lors.
J'étais affolée. Atterrée, je ne croyais pas. Le commissaire reprit avec un sourire entendu.
Je ne puis vous donner qu'une preuve. Il a le bras droit tatoué.
La manche fut relevée, c'était vrai. L'homme de police ajouta avec un certain mauvais goût.
Fiez-vous-en à nous pour les autres constatations.
Et on emmena ma femme de chambre. Eh bien, le croirais-tu? Ce qui dominait en moi, ce n'était pas la colère d'avoir été jouée ainsi, trompée et ridiculisée. Ce n'était pas la honte d'avoir été ainsi habillée, déshabillée, maniée et touchée par cet homme. Mais une humiliation profonde. Une humiliation de femme. Comprends-tu?
Non, pas très bien.
Voyons, réfléchis. Il avait été condamné pour viol, ce garçon. Eh bien, je pensais à celle qui l'avait violée. Et ça m'humiliait. Voilà. Comprends-tu maintenant?
Et Simone ne répondit pas. Elle regardait droit devant elle, d'un œil fixe et singulier, les deux boutons luisants de la livrée, avec ce sourire de sphinx qu'ont parfois les femmes.
C'était Rose, d'après une nouvelle de Guy de Maupassant, adaptée pour la radio par Marco Poli, avec le narrateur Marco Poli, Margot Elena Landrecy, Simone Maria Valguarnera, le concierge Pierre Bassoli, le commissaire Carlo Ruexeguer. Mise en onde de Marco Poli. Prise de son et montage, Pierre Bassoli.